France Culture.
Talmudique. Rivonne Crigier, bonjour.
Bonjour.
Rivonne Crigier, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de la question de la loi et de votre ouvrage « Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme » paru aux éditions In Press. Je rappelle que vous êtes rabbin du mouvement Ma Sortie, vous êtes ordonné de l'Institut Charter de Jérusalem, docteur en sciences des religions et docteur honoris causa du très prestigieux Jewish Theological Seminary of America. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages importants consacrés à la pensée juive et en particulier à la place de la loi et de son évolution dans le judaïsme. Vous êtes aussi très engagé dans le dialogue interreligieux et vous avez d'ailleurs reçu le prix des amitiés judéo-chrétiennes de France en 2013. Nous assistons à l'heure actuelle à un retour religieux, qu'il soit identitaire ou nationaliste, et qui pose un réel problème de régression de l'esprit, phénomène mondial inquiétant. En témoigne par exemple la création par l'administration américaine d'un bureau de la foi dont le nom semble plus appartenir à la science-fiction, mais qui pourtant est bien réel et presque passé inaperçu d'une grande partie de la classe politique et intellectuelle à travers le monde. Nous sommes loin de la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État. C'est l'un des points que vous abordez dans votre ouvrage et qui d'ailleurs en constitue la conclusion. Comment concilier le droit juif et l'État de droit, Rabbin Rivonne Crigier?
Oui, vous ouvrez là une grande question et qui, je crois, comme vous l'avez souligné, nous touche maintenant de manière universelle, puisque dans l'ensemble des peuples aujourd'hui, démocratie, l'idée même de l'État de droit est mise en cause. On voit que l'on récuse les contre-pouvoirs, les cours de justice. Alors, bien sûr, il peut y avoir des abus et des critiques parfaitement légitimes et des rééquilibrages, mais on est en pleine crise, crise de confiance dans les institutions. C'est très prégnant en Israël, où on est au bord de la guerre civile, mais on voit aussi en Occident comment ça se passe, et aux États-Unis, c'était évidemment extrêmement préoccupant. Je n'imaginais pas, en écrivant le livre « Fondamentalisme et humanisme », que au moment où nous nous parlions, la crise ne serait encore que beaucoup plus aiguë. D'où l'urgence, effectivement, de traiter la question et de rentrer au cœur du réacteur, rentrer dans le cœur du dispositif et de comprendre, si on veut contrer les mouvements radicaux, fondamentalistes, il faut pouvoir avoir le même langage et montrer que les religions sont aussi des puissances de réconciliation et de progrès. Alors, je ne suis pas sûr que l'histoire de l'humanité est celle d'un progrès constant, et vous venez donner un exemple de régression. La modernité n'est pas automatiquement un progrès. Le capitalisme sauvage n'est pas un progrès. Donc, il ne faut pas idéaliser la modernité. Mais il faut être conscient que le risque de régression à des systèmes beaucoup plus autoritaires, à des systèmes autocratiques, est un vrai danger, et que ça commence par le national et le religieux. Donc il faut le traiter. C'est pour ça que je m'y suis attelé.
Vous parlez du national et du religieux. J'allais dire que la question du fondamentalisme religieux n'est pas que religieux au sens de spirituel, mais éminemment politique. Je pense à tout un courant qui, sans être nécessairement nationaliste, se dit messianique au sens d'un rétablissement du temple à Jérusalem, de son culte et des institutions judiciaires et politiques qui vont de pair. Expliquez-nous ce cas-là et le danger que constitue ce courant, Rabbin Crigier.
Bon, d'abord, il faut prendre acte que dans la tradition juive, il y a un idéal, c'est que Dieu habite sur terre, et construire un temple en est l'expression éminente. Donc c'est une aspiration juive fondamentale. Est-ce que ça doit se faire dans n'importe quelle condition? Non, bien évidemment. Et c'est là tout l'enjeu. Sinon, Dieu s'en serait occupé lui-même beaucoup plus rapidement. Effectivement, c'est devenu une question politique, la question de la condition de la reconstruction du temple. Petite anecdote, depuis quelques années, on assiste à Jérusalem au fait que des adolescents essaient de monter vers le mont du temple, la fameuse esplanade des mosquées, avec un petit panier. Et les soldats et les gardes sont prévenus qu'ils doivent se méfier d'eux et essayer de les attraper. On joue au chat et à la souris. parce que dans le petit panier, il y a un agneau, avec l'idée de rétablir le sacrifice pascal, qui lui-même n'est que le coup d'envoi de la restauration du culte des sacrifices, première étape de la reconstruction du temple. Donc il y a bien des activistes aujourd'hui qui non seulement veulent reconstruire le temple, mais sous sa forme archaïque, antique de sacrifice sanglant, et en dépit du fait qu'il y a un problème évidemment politique qui doit être réglé, en sachant que c'est une étincelle qui risque de faire exploser la situation. Mais derrière ça, il y a tout un agenda. On ne comprend pas le judaïsme si on fait simplement une photographie. Il faut comprendre que ça se déploie dans le temps et qu'il y a une vision d'avenir, une vision messianique. Et dans la vision messianique, qui est celle que j'appelle fondamentaliste, il y a la restauration de toutes les anciennes institutions selon leur mode de fonctionnement, puisque une fois que le temple est construit et que le culte des sacrifices est rétabli, cela permet enfin d'instituer la haute cour de justice religieuse qu'on appelle le Sanhédrin. Et cette autorité suprême, une fois qu'elle est constituée, peut rétablir la peine de mort et tout le système des 613 commandements tels qu'ils étaient appliqués il y a 3000 ans. Personne dans le monde radical orthodoxe ne conteste ce modèle. Les seules contestations, et elles ne sont pas négligeables, c'est de savoir si on a le droit d'être activiste ou s'il faut attendre le Messie. Pour la plupart des ultra-orthodoxes, il faut attendre le Messie. Donc quelque part, ça diminue la charge politique du problème. Mais fondamentalement, il y a cet agenda et clairement, la vision de ce troisième temple peut être non pas une vision universaliste, mais une vision étroitement nationaliste et autoritaire.
Il faut peut-être, malgré tout, même si d'après vous, les courants orthodoxes sont tous pour la reconstruction du temple, tous ne sont pas pour la réinstauration des sacrifices animaux. Il y a quelques commentaires qui pensent qu'il y aurait des sacrifices végétaux, par exemple.
Oui, et votre remarque est capitale, parce que, de nouveau, on voit qu'à l'intérieur même de la tradition juive, il n'y a pas une seule vision, et certainement pas la seule vision fondamentaliste qui s'impose. En l'occurrence, ici, celle qui est prônée par Maïmonide. Il y a aussi des visions utopiques du messianisme. Et celle, notamment, qui est évoquée par le rabbin Abraham Isaac Cook, qui n'exclut pas d'ailleurs qu'il y ait une étape de restauration de sacrifices sanglants, mais qui dit, plus on va avancer, idéalement, il ne devrait plus y avoir de sacrifices animaux, mais uniquement des sacrifices végétaux. Et ce n'est qu'un exemple parmi de très nombreux où la vision messianique ne correspond pas à l'application des 613 commandements archaïques, mais à des modifications de statut, notamment l'abolition de l'esclavage dont on a parlé dans l'émission précédente, l'abolition de la peine de mort, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a des textes tout à fait passionnants qui vont dans ce sens. Et même l'abolition du distinguo entre les juifs et les païens. J'ai presque envie de citer les évangiles, mais c'est pas les évangiles. Là, Paul, lorsqu'il dira il n'y aura plus juifs et grecs, hommes et femmes, esclaves et hommes libres. En fait, cet idéal d'une vision qui, tout en respectant les différences, serait profondément équitable, est partagé par un certain nombre de rabbins, les plus classiques, qui ont une vision évolutive des temps messianiques. Donc il n'y a pas unanimité. Et il n'y a pas, encore une fois, unanimité dans la méthode. Les activistes messianiques pensent qu'on n'a pas besoin que le Messie arrive pour déjà avancer et créer toutes ces conditions de reconstruction du temple. Tandis que le monde ultra-orthodoxe, qui va militer de manière autoritaire, de manière piétiste, pour imposer le Shabbat ou la pudeur excessive pour les femmes, ne se permettrait pas de faire quoi que ce soit au niveau du temple, parce qu'ils estiment que seul le Messie est qualifié pour le faire. Donc vous voyez, tout est en débat, et c'est ça que je tiens à montrer dans l'ouvrage, c'est que le judaïsme n'est pas uniforme et univoque, et que des sensibilités différentes s'y expriment.
Ce qui est important dans ce que vous dites, ce n'est pas l'idée du temple qui est dangereuse en soi, mais la manière dont on donne sens à ce lieu et à la pratique que l'on veut y instituer, quel serait pour vous un temple en adéquation avec les valeurs humanistes que vous défendez? Je me suis demandé si ça serait une grande université, une immense bibliothèque ou médiathèque, un grand musée, un lieu de prière multiconfessionnelle. Quelle est pour vous la figure de ce temple humaniste que l'on pourrait appeler de nos voeux?
Alors je citerai deux sources d'inspiration. La première, Isaïe 56, où il envisage une maison de prière pour toutes les nations. C'est comme ça qu'il définit sa vision du temple futur. D'abord de prière et pour toutes les nations. Et puis je pense à une autre très grande figure du XXe siècle, le rabbin Chaim Hirschhausen, qui était en grand débat avec le Rav Kook sur la question de la restauration possible du culte des sacrifices. Et il dit, il faudra attendre qu'un prophète ou que l'Esprit Saint revienne sur Israël pour se prononcer sur une question aussi délicate. On voit bien que les esprits n'y sont pas préparés. Mais il dit, une chose est sûre, c'est que si il nous est donné d'accéder à cet endroit, il faut que ça devienne un endroit universel. Et ce qu'il prône, lui, à titre personnel, à son époque, c'est non pas une maison tant de prière, mais une haute cour de justice. Pas une université non plus, mais une haute cour de justice qui, dit-il, serait très différente de celle de Hague, qui défendrait vraiment l'équité. Et il dit, au cœur, il y aurait le décalogue, une loi universelle. Et pour moi, ce qui est capital, c'est que ce lieu du monothéisme soit un lieu du monothéisme. C'est-à-dire qu'il ait, dans ce troisième temple, ce caractère universel. Dans les textes anciens, le lieu est appelé « montagne de Dieu », « Har Elohim » ou « Har Hashem ». Si c'est le cas, ce lieu ne devrait pas appartenir aux Israéliens, ni aux Palestiniens, ni à qui que ce soit. Ce devrait être, idéalement pour moi, bien sûr, la montagne qui appartient seule à Dieu et où seul le culte universel qui rassemble toutes les nations serait autorisé. Je crois que cette vision-là remplirait la véritable vocation universaliste telle qu'elle est développée dans les textes prophétiques et telle qu'elle est déjà énoncée pour Abraham, à qui Dieu avait promis que son futur peuple serait une bénédiction pour toutes les nations. C'est un petit peu utopique, mais c'est ma vision.
Dans ce contexte, la question de la foi est intéressante, me semble-t-il. Je me souviens de cette anecdote que rapporte Lévinas dans son ouvrage intitulé « À l'heure des nations ». Voilà l'anecdote. Quelque temps avant sa mort, Hannah Arendt racontait à la radio française qu'enfant, dans son Königsberg natal, elle déclara un jour au rabbin qui lui enseignait la religion « Vous savez, j'ai perdu la foi ». Et le rabbin lui répondit « Mais qui vous la demande ?» Je pense, rabbin Rivon Kriger, que cela mérite commentaire. Sans doute est-il intéressant de redéfinir la foi. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre dans votre ouvrage qui se pose la question « Est-ce que la foi est un commandement ou n'est pas un commandement ?»
Oui, alors si vous le voulez bien, je vais repartir de la dernière partie de votre propos parce que on trouve souvent ce discours paradoxal dans le monde traditionnel où on dit à la fois, c'est pas tellement la foi qui est important, à la limite, vous pouvez la laisser de côté, comme dans l'anecdote de Hannah Arendt, l'important c'est que vous fassiez, que vous accomplissiez. Et puis d'un autre côté, on nous dit, c'est un ordre, et c'est même un commandement divin que de croire en Dieu, et vous entendez tout le côté paradoxal, la pétition de principe, que puisqu'on a déjà admis l'existence de Dieu, en disant qu'il y a un commandement divin de croire en Dieu. Oui, c'est un peu absurde, c'est presque une blague juive. Donc, ce discours paradoxal, il faut le démonter. Il est évident que beaucoup de commandements de la tradition juive ne font sens que parce qu'il y a une instance transcendante qui nous demande de nous élever. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, le judaïsme n'est pas fixé sur les propositions de foi, sur une doctrine théologique. C'est très complexe, la question de Dieu, et c'est très individuel le ressenti que chacun peut avoir sur cette, ou les intuitions que chacun peut avoir sur la question. Ce qui est essentiel, c'est ce qui émane du divin. Si vous allez au Louvre et que vous êtes ébahi par la Joconde et que vous ignorez que c'est Léonard de Vinci qui en est le peintre, eh bien, je peux vous dire, avec le rabbin qui a répondu à Hannah Arendt, c'est pas très grave. Mais si vous n'êtes pas ébahi par la Joconde, si ça ne vous élève pas spirituellement, alors là, on peut se poser des questions. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que je prends la question de la foi. Non pas qu'elle n'est pas importante, ses conséquences sont décisives. Même s'il est difficile de remonter à la source et que souvent, elle échappe à nos esprits.
Si elle est décisive, en quoi elle est décisive ?
Être sensible à des valeurs fondamentales. C'est ça qui, pour moi, détermine la véritable religiosité d'une personne, même quand l'idée de Dieu est confuse. Le fait que quelqu'un est prêt à mettre parfois sa vie en jeu parce qu'il défend une notion de justice montre qu'il croit en ses valeurs. Et ces valeurs sont l'expression de la volonté divine. Donc, je me dis, c'est pas grave si on connaît pas le nom de l'auteur. L'expression elle-même se laisse percevoir. Et cet enjeu-là, on rejoint l'idée des sept commandements de Noé. Celui qui est sensible à ses valeurs, pour moi, est sensible au divin.
Donc il y a la valeur de justice.
Oui.
La valeur de mansuétude, peut-être.
Oui, mais je dirais surtout que la foi, ce n'est pas tant croire ce que Dieu peut faire pour moi, pour mon confort et pour mon plaisir, ou pour me sauver, mais que la foi, c'est la confiance que Dieu place en nous, c'est le défi, c'est l'exigence d'advenir à nous-mêmes. Ça, pour moi, c'est l'enjeu capital de la foi.
D'advenir à nous-mêmes pour l'autre.
Pour l'autre, mais sans s'exclure. Ce n'est pas un masochisme, c'est quelque chose de relationnel.
Nous sommes en train d'entendre un chant composé par Shlomo Carlebach, le même compositeur que la semaine dernière, ici dans une très belle version de l'ensemble Yama. Et si j'ai choisi cette version, c'est qu'elle nous fait entendre le son du chauffard, cette corne de bélier, instrument de musique dont l'usage remonte, selon la tradition, au non-sacrifice d'Isaac, un thème qui ouvre votre livre et qui, en quelque sorte, offre une leçon particulièrement importante sur le sens de l'humanisme et ses valeurs que vous tenez à nous faire entendre, Rabbin Rivon Krigier.
Oui, parce que l'épisode de la ligature d'Isaac peut donner l'impression, et à juste titre en première lecture, que l'enjeu de la foi consiste à se soumettre à Dieu jusqu'à aller sacrifier les êtres qu'on aime et jusqu'à mettre à bas les valeurs les plus fondamentales de justice, puisque c'est une injustice. Isaac est parfaitement innocent et s'est présenté en modèle. Donc les lecteurs de la Bible, et les juifs en particulier, aiment à dire que ça ne doit pas être compris comme ça, que c'est un non-sacrifice, parce que finalement, Isaac n'est pas sacrifié. Il n'en reste pas moins que Abraham a obéi et qu'il est allé jusqu'au bout. Et s'il n'avait été l'interruption faite par l'ange, envoyé par Dieu, eh bien, on ne voit pas pourquoi Abraham n'aurait pas été jusqu'au bout. Donc, si on regarde l'attitude d'Abraham et des textes traditionnels la regardent et la mettent en valeur, cela pourrait laisser croire que la foi peut écraser tout sens moral. Or, ce que j'essaie de montrer dans mon ouvrage, mais il faut bien sûr prendre le temps de l'étude, c'est que, en réalité, non, Abraham ne concède pas ses valeurs morales, qu'il se fonde sur une promesse, la promesse que sa postérité passera par Isaac, et il va jusqu'au bout dans cette demande étrange, avec la conviction profonde que le sacrifice n'aura pas lieu. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on peut se demander, mais alors pourquoi toute cette mise en scène? Et là, c'est l'enjeu même de l'élection et de la définition même de la vocation d'Abraham. Il n'est pas élu gratuitement. Il n'est pas élu sans que cela engage pour lui sa vie et la vie de son peuple. Désormais, si il n'est pas entier dans sa foi, eh bien, sa vie sera en danger. Et ce qui est frappant, et c'est un point que je souligne, qui est complètement ignoré ou trop ignoré, c'est que quand on fait une bonne lecture de ce texte, on se rend compte qu'il n'y a pas une épreuve, mais deux épreuves. Car juste au chapitre précédent, presque dans des conditions, en tout cas très ressemblantes, on voit que Abraham doit quasiment sacrifier son autre fils, qui est Ismaël, en le renvoyant sa mère et lui, et son fils Ismaël, dans le désert, au bord de la mort. Ils sont sur le point de mourir, et là aussi on voit un ange qui intervient et qui les sauve. Donc on voit que tant Isaac que Ismaël sont objets d'une épreuve qui les porte au seuil de la mort, et qu'on sait qu'en amont, dans la discussion entre Abraham et Sarah, il y a l'enjeu de la véritable légitimité d'existence et de vocation, et la rivalité qui existe entre Ismaël et Isaac. Et du coup, on comprend que dans ce texte, l'enjeu est celui de la fraternité, puisque Sarah a demandé qu'on sépare ces deux instances, parce qu'ils représentent évidemment les peuples futurs, mais ce n'est pas sans conséquence, ce n'est pas sans un prix. Et ce n'est pas non plus sans la prise de conscience que, parce que cette séparation conduit au seuil de la mort, il va falloir faire quelque chose, il va falloir œuvrer à travers l'histoire pour trouver une voie de réconciliation. Et vous entendez très bien ce que ça implique aujourd'hui comme vision à long terme sur un plan politique.
C'est-à-dire que vous expliquez dans votre ouvrage qu'à la fin, quand Abraham redescend de la montagne avec Isaac, il retrouve non seulement Eliezer, mais il retrouve Ishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël, celui qui aurait pu être exclu de l'histoire par le chapitre précédent, est présent. Et pour vous, le sacrifice ou le non-sacrifice d'Isaac, c'est pas simplement que Isaac n'a pas été sacrifié, c'est que Ishmaël, qui était exclu, a été réinséré dans l'histoire et dans la fraternité. C'est-à-dire que pour vous, c'est le signe profond de la réconciliation qui est nécessaire.
Les sages du Talmud le disent eux-mêmes, puisque Ismaël et Isaac participent ensemble aux obsèques d'Abraham. Ils se retrouvent fraternellement. Alors, c'est important de souligner que dans la Bible, on voit les deux temps. Il y a celui de la séparation, du fait que leur coexistence n'est pas possible dans l'immédiat, et qu'il faut en accepter les termes. Abraham se soumet à l'injonction de Sarah de devoir séparer les deux familles. Donc ça fait partie aussi de l'héritage. Mais malgré cela, le message qui vient recouvrir le tout, c'est que ça reste inacceptable. C'est une nécessité de l'heure, mais on ne peut pas perdre de vue, sur un plan spirituel, que la réconciliation est l'enjeu futur, et il faut y œuvrer.
Même si les temps sont durs, et après le 7 octobre, c'est extrêmement compliqué de formuler cette réconciliation, vous avez écrit ce livre avant le 7 octobre, et dans ce livre, vous avez un chapitre qui peut paraître étonnant aujourd'hui, et difficile à entendre et à appliquer. Vous parlez d'un humanisme où il faut aimer son ennemi. Parlez-nous de cette idée humaniste d'aimer son ennemi, Rabbin Rivon Krigier.
Alors, on touche encore une fois à un cliché qui est consiste à dire que l'amour de l'ennemi est une grande innovation des évangiles, du fameux sermon sur la montagne de Jésus, et que le judaïsme dit tout autre chose, et d'ailleurs les juifs eux-mêmes tiennent ce propos en disant que ce que le dit le judaïsme, c'est « celui qui vient te tuer, lève-toi plus tôt et tue-le avant qu'il ne te tue », alors que c'est en réalité une parole qui parle plus de la légitime défense que d'une éthique de la vengeance ou de l'agressivité. Oui, il y a des textes de la tradition juive qui parlent de l'amour de l'ennemi. Je pense en particulier à un texte très émouvant de l'époque talmudique qui s'appelle Avot des Rabbi Nathan, qui dit « Quel est le véritable héros ?» C'est-à-dire celui qui se surmonte, celui qui se dépasse.
Le gibor.
Le gibor, c'est celui qui se réconcilie, qui fait de son ennemi son ami. Et c'est une idée au cœur de la tradition juive. Mais ce n'est pas pour tout d'un coup tomber dans un monde de bisounours et d'ignorer la dangerosité de l'ennemi. Bien sûr, dans le monde réel, il ne faut pas indistinctement aimer ses ennemis, mais il faut, même en situation de conflit, avoir toujours cette capacité de dépasser la conflictualité et d'aspirer à quelque chose de supérieur. Il faut tenir les deux bouts, être présent dans le monde. On a un très bel exemple dans la sortie d'Égypte où, lorsque les Hébreux passent la mer des gens, la mer rouge, sur la version de la lecture midrashique, dans le monde d'en bas, les Hébreux se réjouissent de l'engloutissement des Égyptiens qui voulaient les massacrer. Mais dans le monde d'en haut, alors que les anges voulaient chanter, Dieu les fait taire.
Et il leur dit, comment vous pouvez faire des louanges alors que mes créatures et mes enfants sont en train de se noyer?
Voilà. Et les deux situations sont coexistantes, elles sont vraies. Dans l'immédiat, on est parfois obligé d'être entraîné dans la guerre. Et il faut pouvoir faire face à l'ennemi de manière forte. Mais on ne peut pas faire de la force la seule expression et la seule manière d'exprimer son rapport à l'autre. Si c'est le cas, on a perdu le sens profond de la fibre du judaïsme. C'est un message capital. Si on n'aspire pas, par-dessus tout, à l'universalisme et à la paix, on a perdu l'essence du prophétisme hébraïque.
On vient de parler de la réinsertion de Ishmaël dans la fraternité avec Isaac. C'est la réinsertion de l'exclu. Il y a une réinsertion des exclus qui est aussi importante dans le judaïsme. En tout cas, c'est une invitation à repenser la place de la femme, qui est un grand débat au sein du judaïsme. Il y a quelque chose ici d'essentiel qui concerne aussi la dimension politique de la société. Je pense à la parité et l'égalité homme-femme qui n'est pas toujours présente dans le judaïsme traditionnel. Rabbin Krigier.
Ben oui, on touche de nouveau à une vision essentialiste qui consiste à dire il y a une espèce de hiérarchie instaurée par Dieu qui est indéboulonnable, que l'homme domine la femme. En réalité, quand on examine de près les textes, on voit des propos très audacieux. Je pense notamment à un kabbaliste du tournant du XIIIe, XIVe siècle, Reuven Sarfati, qui, sur le commentaire d'un texte classique de la Kabbale, écrit que dans le monde à venir, les hommes et les femmes seront tenus par les mêmes devoirs religieux. Il n'y aura plus de différence. Et il donne un très bel exemple, très symbolique. Il prend les deux bougies de Shabbat. Une représente le masculin, une représente le féminin, une représente le soleil, une représente la lune. Et on sait qu'il y a eu une diminution de la lune selon la version midrashique et une réduction du statut de la femme à l'égard de l'homme. Il dit, mais la vision ultime messianique, c'est que ces deux lumières brilleront à égalité dans le ciel, et les deux lumières de Shabbat brilleront à égalité. Et c'est ce qu'il dit. Donc, pour lui, l'émancipation de la femme fait partie du programme messianique. C'est assez difficile à entendre pour ceux qui sont les tenants d'un conservatisme étroit, mais c'est au cœur de la tradition juive. De nouveau, une évolution que Maïmonide et tous ses tenants n'auraient jamais acceptée.
Dans votre livre, on a l'impression qu'il y a, c'est un jeu de mots que je vous ai entendu souvent prononcer, non pas une révolution permanente, mais une révélation permanente pour expliquer justement cette possibilité de l'évolution de la loi. Mais le terme de révélation est important parce que je crois que vous y associez la question de l'alliance, Rabbin Ivan Krigier.
Dans le monde occidental, un des grands bouleversements qui s'est produit, c'est le darwinisme. Et l'idée qu'on ne peut plus comprendre les espèces sans comprendre qu'il y a une évolution. En physique, quand Einstein a lié l'espace et le temps. Il a dit que on ne pouvait pas les dissocier. Aujourd'hui, faire du judaïsme une espèce de code qui est fixé et définitivement fixé, ou dans lequel on fait juste quelques petites retouches esthétiques, et oublier la dimension du temps, c'est tuer la révélation qui anime, l'esprit qui anime tous ces textes. Tout au long de l'histoire, le judaïsme a effectivement évolué, et j'en montre de multiples exemples dans mon ouvrage. Il ne faut pas à tout prix chercher l'évolution, mais il faut accompagner, être en dialogue avec le monde, ne pas être enfermé dans sa tour d'ivoire. Le judaïsme, c'est Torah vederer eretz, dit le Maxime des Pères, c'est-à-dire la Torah, mais le sens du civisme, c'est-à-dire l'écoute de ce qui se passe dans le monde. C'est pas une science abstraite, c'est une science appliquée, le judaïsme. Et comme toute science appliquée, elle doit pouvoir comprendre l'évolution des sociétés et des mentalités et trouver la bonne réponse. C'est comme une équation permanente à résoudre. Et c'est cela l'enjeu de la révélation permanente, le chidouche, le renouveau que préconisent nos sages.
Merci Rabbin Rivon Krigier pour ces 2 semaines de dialogue et pour ces belles réflexions qui ouvrent des chemins d'intelligence, de lumière et d'espérance. Je rappelle le titre de votre ouvrage, précieux et important, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme. C'est aux éditions Inpress. Merci encore Rabbin Rivon Krigier.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Tahar Bouklifa, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.